Montauban, 93.3.
On va saluer d'ailleurs, tiens, les gens qui habitent du côté de Montauban, soyez toutes et tous les bienvenus. Nous sommes lundi, et bien on est très heureux de vous retrouver pour ce présent ce midi, en compagnie de vous, David Torchala.
Oui, bonjour à tous, c'est vrai qu'on est heureux de vous retrouver ce
voilà,
lundi.
Même si on ne s'est pas trop quitté, puisqu'on vous a fait quand même vivre samedi la fête de l'Assomption, vendredi c'est la fête de l'Assomption, et puis aussi la belle messe donc du diocèse d'Auch.
Ah oui, ça c'était en direct de l'église Sainte-Bernadette, les Gersois en pèlerinage à Lourdes, on ne pouvait pas passer à côté.
Ah non, exactement.
On les salue, les Gersois.
Et on n'est pas passé à côté. Et d'ailleurs, on fera écouter les meilleurs moments de cette très belle messe mercredi prochain dans le visage d'église dans le Gers.
Oui, présidé par Monseigneur Lacombe.
Exactement, l'archevêque d'Auch. Nous allons vous retrouver dans quelques instants pour parler de l'actualité comme nous le faisons chaque lundi et de l'actualité du sanctuaire Notre-Dame de Lourdes. On va faire deux mots sur le 15 août. La fête fut belle.
Ah, oh, elle fut magnifique cette fête.
Belle et chaude.
Chaude, ouais, très chaude.
Et puis après, bien, on parlera d'un livre. Dieu nous parle à travers les catéchumènes. C'est un jeune qui était venu avec un groupe des Landes visiter la radio il y a quelques semaines. Il est revenu puisqu'il a écrit un livre qui sortira en 2026. Il nous en parle dans quelques instants. Et puis, on peut dire, c'est un peu l'événement. Hein. La sœur de Roselyne Hamel, la sœur du Père Hamel, sera avec nous dans deux passages à Lourdes.
Ah oui, Roselyne Hamel qui a écrit « Sœur de douleur » avec Nassera Kermiche, oui, 7 ans après l'attentat de Saint-Étienne de Rouvray.
Voilà, exactement. Donc, on se retrouve dans une poignée de secondes, quelques minutes pour deux passages à Lourdes avec Mathias Terrier.
Présence à Luchon, 94 FM.
Alors, c'est pas Luchon que nous allons aller de suite, c'est bien à Lourdes et au sanctuaire Notre-Dame de Lourdes avec vous, David. Alors, le 15 août, très belle fête.
Oui, ça a été une très belle fête. Il y a eu, au plus fort de la journée du 15 août, plus de 22 200 personnes. Ça paraît beaucoup, mais c'est 4000 personnes de plus par rapport à l'année dernière. Donc, il est impossible de savoir combien exactement de personnes à Lourdes. Vous savez, le sanctuaire ouvre grand ses portes. Alors, on sait compter les mouvements aux portes d'entrée et de sortie, et puis l'affluence maximale à un moment. Et bien, évidemment, il y avait le plus de monde. C'était pour cette messe, pour cette solennité de l'Assomption qui s'est vécue à l'intérieur de la basilique Saint-Pédis. Et alors, les médias ont été extrêmement nombreux. Vous avez peut-être vu ça sur les chaînes d'information, sur TF1 aussi, qui a fait beaucoup des 13h, des 20h sur Lourdes. Ben, c'était le plan canicule qu'on a dû mettre en place, parce que accueillir ainsi des foules avec des personnes malades, âgées, porteuses
fragile.
De handicap, mmh. fragiles, mmh. il faut évidemment se mettre à l'abri. Et alors, la réponse était toute faite, parce que je me disais, mais comment faites-vous à Lourdes? C'est très simple, nous avons une des plus grandes basiliques du monde, qui est la basilique Saint-Pédis. Elle fait 200 mètres de long, avec une capacité de 20 000 places. Donc évidemment, c'est un refuge. Ça, c'est Monseigneur Théas qui avait construit, et puis elle a été consacrée en 1958 pour le centenaire des apparitions, cette immense basilique, pour pouvoir mettre les pèlerins à l'abri. Alors, je pense plutôt dans les années 50, ils pensaient aux intempéries, à la pluie, on s'en sert. Oh, mais il devait certainement faire chaud aussi, mais voilà, on s'en sert également, évidemment, pour la canicule, pour mettre tout le monde au frais. Et donc, évidemment, ce pèlerinage national s'est beaucoup passé à l'intérieur de la basilique Saint-Pédis, de fait, parce que les chaleurs étaient assez extrêmes, on peut le dire. Mais tout a pu bien se passer, et on n'a même pas révélé de difficultés, d'incidents pendant cette chaleur. C'est dire aussi que ce sont bien les hospitaliers qui prennent soin des personnes qui sont en fragilité. Ben ça vaut, j'ai envie de dire, toutes les mesures, les gestes de précaution possibles, parce que il est peut-être même plus dangereux finalement pendant ces périodes de canicule de rester seul enfermé dans son appartement. Là, bien voilà, les chanceux, ils étaient 700 malades accompagnés par le pèlerinage national, et puis aussi on avait le pèlerinage de Malines-Bruxelles aussi, qui avait amené pas mal de pèlerins malades. Et bien, ils ont été chanceux d'avoir autour d'eux plus de 4000 hospitaliers et beaucoup de jeunes. Je sais que vous allez parler de ce livre sur les catéchumènes. Évidemment, les catéchumènes, il y a un élan. Ils ont été plus de 18 000 en France cette année. Et donc, le TF1 a consacré un 20h le soir du 15 août là-dessus, puisque des jeunes catéchumènes sont venus à Lourdes. On leur a dit catéchumènes, on peut dire recommandés. commençants, enfin en tout cas voilà des jeunes qui s'engagent dans l'Église. C'est magnifique en tout cas de les voir vivre des vacances un peu autrement, parce que alors ils sont peut-être allés à la plage, hein, ils étaient peut-être au retour, mais en tout cas ils étaient là vraiment présents pendant une semaine pour venir s'occuper les uns des autres. Et alors pour avoir été dans les accueils médicalisés très tôt le matin, parce que vous savez les télévisions nous font faire les matinales, la matinale de Bruce Toussaint notamment, la TF1, les LCI, les BFM, etc. Dès 6h du matin, ils sont là, ils chantent, ils sont ensemble, ils accueillent les malades. Alors ils sont couchés tard la veille, parce qu'ils s'abusent aussi, hein, nos hospitaliers. Malgré tout, ils sont là à 6h pour accompagner les malades. C'est magnifique de le voir, on le sait, on le répète, mais c'est vrai que c'est beau.
Voilà, donc un très beau 15 août à Lourdes, une belle édition 2025, voilà. Et d'ailleurs, je le vois à votre sourire. Alors, Lourdes, on le dit souvent, change de visage. On avait les jeunes d'Île-de-France avec le Frat qui nous ont animés. Et puis, on a eu à Chipiti, là aussi, ce pèlerinage hors norme avec les Anglais qui viennent déguisés et qui amènent des malades aussi et qui leur font vivre.
Il y a beaucoup d'enfants.
On a le pèlerinage militaire aussi. Et là, un pèlerinage qui est là, c'est celui des gens du voyage.
Oui, le pèlerinage des voyageurs, des gitans et gens du voyage. Alors, ils sont arrivés dimanche avec l'ouverture progressive des terrains, avec notamment cet immense terrain abadi. C'est juste derrière le sanctuaire, un immense terrain qui permet d'accueillir des centaines de caravanes. Ils sont là certainement 400, 500 caravanes sur ce terrain. On pense qu'il y aura peut-être 1000 caravanes pour ce pèlerinage donc qui vient de débuter. Et c'est vraiment un pèlerinage des familles, hein, parce que dans chaque caravane, ce sont des familles qui aiment se retrouver à Lourdes. Alors c'est vrai que l'installation des terrains, ça fait toujours trembler les municipalités, parce qu'il faut pouvoir être proche aussi et être aussi en famille, donc trouver de la place pour tous. Si vous souhaitez venir voir ce pèlerinage des gitans et gens du voyage, parce qu'il est ouvert à tous à l'intérieur du sanctuaire, c'est très beau. Mardi soir, demain soir, il y aura donc à 20h la bénédiction des familles à l'église Sainte-Bernadette. Et puis mercredi soir, la procession mariale au flambeau. Donc elle est à 21h. Elle va être animée par les voyageurs. Alors c'est beau parce que ils aiment chanter, ils aiment la guitare, ils aiment animer. Donc il y a toute cette aubade aussi des musiciens qui suivent la procession, qui vient prolonger ce temps de prière. C'est très beau. Et puis en plus, il fera frais. Dedans, que la chaleur nous a quittés à Lourdes, on le regrette pas. Et puis aussi, un rendez-vous. Alors ça, c'est, faut être connaisseur pour savoir ce rendez-vous. Alors je vous donne cette astuce. C'est jeudi à 16h, dès 16h45, il y a la procession des cierges. Alors ça, c'est incroyable parce que tous les voyageurs, les gitans, les gens du voyage qui sont dans leur caravane, vous savez, ils aiment les grands cierges, les gros cierges où il faut être deux pour les porter. Vous savez que les cierges vont de 130 grammes à 70 kilos, donc il y en a pour toutes les tailles et toutes les formes, et donc ils viennent en procession et traversent le sanctuaire avec cette immense procession de grands cierges qui sont décorés, fleuris, etc. Et bien sûr en chantant et en priant la Sainte Vierge. C'est très beau. Donc ça, c'est à partir de 16h45 jeudi soir, et donc après il y a le dépôt aux chapelles de lumière, et tout ça finit à 19h pour l'heure du souper. C'est vraiment là, on entre dans le cœur vraiment du pèlerinage à ce moment-là. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le vis chaque année. Puis après, vendredi, ça sera c'est vendredi, donc c'est chemin de croix. Donc chemin de croix pour les personnes malades dans la prairie, et puis chemin de croix au grand monde et des espélugues, voilà, pour les plus vaillants. Et puis ensuite, le programme continue tout doucement avant que tout le monde ne reparte faire la rentrée scolaire.
Eh oui,
ça arrive aussi.
Effectivement. Voilà, donc ce pèlerinage des gens du voyage, donc qui débute donc aujourd'hui, c'est ça,
il débute. Et oui, en fait, il a débuté déjà depuis dimanche, puisque tout le monde est déjà arrivé sur les terrains.
Mais on les voit grenouillés dans le sanctuaire.
Voilà. Moi, je vous ai donné quelques
dates,
quelques passages importants et quelques moments forts de ce pèlerinage.
Merci beaucoup, David. Ben voilà, l'actualité du sanctuaire qui continue après. Et puis le grand prochain rassemblement, ce sera donc le rosaire.
Ah, ça sera le pèlerinage du rosaire début octobre. Alors là, c'est des dizaines de milliers. C'est le plus grand pèlerinage de l'année.
C'est vrai que...
Voilà, parce qu'ils sont seuls à être organisés. Là, cette famille dominicaine incroyable. Ils étaient là pendant le pèlerinage du national parce qu'il y a une tradition. Le pèlerinage du rosaire visite le pèlerinage national le 15 août et le pèlerinage national visite celui du rosaire au mois d'octobre. Et voilà, donc comme ça, on peut voir les grands pèlerinages de l'année à chaque fois qu'il y a un grand événement.
Une vraie fraternité. Voilà, entre merci beaucoup, David, et puis on se donne tout simplement rendez-vous la semaine prochaine, lundi prochain.
Eh ben parfait, je serai là la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
À Millau, 106.5.
C'est une belle visite que nous avons aujourd'hui à travers vous, Guillaume François Salin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un livre qui va sortir d'ici quelques semaines, quelques mois même.
Quelques mois, oui.
L'année prochaine, en 2026. Vous êtes fait cette réflexion, le nombre de baptisés adultes augmente chaque année. C'est réjouissant, hein, vous le dites, mais vont-ils persévérer dans la foi? C'est la question que vous posez dans ce livre, et on va partir un peu à la découverte de cet ouvrage, donc on a dit qu'il sortira donc l'année prochaine. Vous êtes vous-même catéchumène, c'est-à-dire que vous n'avez pas été élevé du côté de la foi ou de la religion catholique.
Voilà, tout à fait. Moi, j'ai grandi dans une famille non chrétienne. J'ai pas eu de pratique de la foi dans ma famille. J'ai pas eu d'éducation chrétienne. Voilà, j'ai grandi comme un athée. Et en fait, la foi, ça a été vraiment une découverte personnelle, vraiment personnelle. Et du coup, je me suis converti vers mes 16, 17 ans, on va dire 16 ans. Et puis la conversion vraiment profonde a eu lieu à 17 ans. Et là où vraiment il y a eu la bascule, ça a été à Lourdes, j'avais à peu près 18 ans. Et mon baptême a eu lieu il y a à peu près 9 ans, j'avais 21 ans, après un an de préparation à Bordeaux auprès des Dominicains. Et suite à ça, je ne suis jamais sorti. J'ai eu un grand zèle pour évangéliser. Et parfois on comprend mal l'évangélisation, on peut voir ça comme je veux convaincre les autres, et comme dit Bernadette à Lourdes, j'ai beaucoup aimé cette phrase, je ne suis pas chargé de vous faire croire mais de vous témoigner. En fait, moi j'avais envie de témoigner de ce trésor, en fait, parce que quand on vit quelque chose de merveilleux, un trésor, et qu'on souhaite le bien aux autres et qu'on considère, qu'on croit du plus profond de son être que ce qu'on a vécu, c'est la plus belle chose au monde et qu'il n'y a pas mieux sur Terre, bon, on n'a qu'une envie, c'est de partager.
C'est de le dire.
Exactement.
Lorsqu'on est amoureux de quelqu'un, ici, on en parle avec passion et on a vraiment envie de le partager, son bonheur, le partager avec le plus grand nombre.
Exactement.
C'est un peu, puisqu'il y a votre épouse qui est à côté de vous, c'est aussi une histoire d'amour entre vous et Dieu.
Avec mon épouse ou
les deux. Enfin, est-ce qu'on peut mettre un parallèle entre
Carrément. Moi je considère que Dieu m'a tout donné. Il m'a donné même mon épouse parce qu'on s'est rencontrés à l'église. Et en fait, j'ai vraiment fait dans l'évangile de Matthieu. Ça a été l'évangile de notre mariage. Jésus dit cherchez son royaume et sa justice et tout cela vous sera donné de surcroît. J'ai fait le pari dans ma vie de tout donner à Dieu. Alors je suis pas consacré, hein, je suis pas prêtre, mais vraiment dans ma vie, il était le centre de tout. Et il m'a vraiment tout donné, mon orientation professionnelle, plus tard la rencontre de mon épouse, mes amitiés. Et
vous avez l'impression que plus vous avancez dans la vie, plus il vous met dans votre chemin, sur votre route, oui, des choses que vous avez besoin.
C'est comme si, vous savez, j'aime beaucoup cette phrase qui vient d'Augustin par rapport à son livre La Cité de Dieu. Et il a cette métaphore qu'il n'a pas inventée, hein, mais qu'il a développée, la Cité de Dieu. Nous sommes tous en chemin vers la Cité Céleste. Et avec cette image, nous sommes tous des pèlerins ici-bas. Mais certains, en fait, ne sont pas encore pèlerins. Ils sont plutôt errants, vagabonds. Et moi, je me considérais comme un vagabond de l'existence parce que je n'avais pas la foi, je ne savais pas quoi faire ici-bas. Et très jeune, j'avais compris avec lucidité et non pessimisme. Pour moi, c'était de la lucidité. À 15 ans, j'avais compris que, en fait, tout ce qu'on faisait ici-bas allait finir un jour. Que rien n'était éternel ici-bas. Et du coup, j'avais la réflexion, mais vraiment pas comme un adolescent révolté, mais vraiment profonde de me dire, mais pourquoi je vais me donner pour des choses, de toute façon tout va finir. Je vais aimer quelqu'un, la personne va disparaître, je vais me donner dans un travail, mais un jour je pourrai plus l'exercer, tout va disparaître un jour, pourquoi? Et c'est là où, quand je suis tombé sur l'évangile de Matthieu et de Jean, notamment Jean qui dit au chapitre 14, verset 6, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », et plus loin il dit « Quiconque croit en moi ne mourra pas, mais aura la vie éternelle ». Et à ce moment-là, j'ai compris que si la vie ne se conclut pas la mort, tout ça a un sens. Et donc, tout ce qu'on fait ici-bas n'est pas vain. Il y a une espérance. Et pour aller encore plus loin, je me suis dit, mais du coup, Jésus, c'est des belles phrases, mais on va mourir quand même. Hein. Il y a la mort est là, on peut dire ce qu'on veut. Et du fait de sa résurrection, c'est le seul homme sur terre, du moins celui qu'on témoigne aussi vigoureusement, qui a vaincu la mort et qui est venu le témoigner. Donc qui a fait un témoignage que la mort n'a pas le dernier mot. Et qui du coup nous ouvre une vraie espérance. Parce que dans toutes les autres spiritualités, on nous parle de ce que Nietzsche appelle des arrière-mondes. Et moi je pensais pareil avant d'être chrétien, je me disais mais...
C'est quoi l'arrière-monde ?
Un arrière-monde en fait, c'était la critique de Nietzsche envers les religions. Et une critique très intéressante et qui je pense est vraie en partie. Il disait mais en fait c'est facile les religions, on vous dit souffre ici-bas, galère, mais tout ira mieux après, dans un monde arrière. Et donc en fait on met toutes ces justifications dans cet arrière-monde qu'on ne voit pas, et du coup on peut tout justifier. Et je pense qu'il y a une part de vrai, même des fois en tant que chrétien, on peut tomber là-dedans, dans cette facilité de dire oh, « mais t'inquiète pas, tout ira après, souffre » et vous voyez, ça peut être une excuse. Mais je pense que cette critique, fondamentalement, ne s'applique pas au christianisme, parce que nous, ce n'est pas qu'un arrière-monde, c'est aussi le Christ qui est ressuscité ici, et qui a témoigné, qui l'a montré, qui apparaît encore aujourd'hui. Et on est à Lourdes, la Vierge Marie est apparue, elle est censée être morte il y a 2000 ans, et elle apparaît encore, il y a encore des gens qui la voient, il y a encore des gens qui sentent sa présence. Moi j'ai des amis qui sont, avec mon épouse, on a des amis qui sont musulmans, j'ai déjà rencontré des bouddhistes, etc. Je n'entends jamais dans leurs témoignages, j'ai senti la présence de cette personne vivante. Autre, ils peuvent dire j'ai senti une présence de Dieu, ça il n'y a pas de souci, hein, vu qu'il n'y a qu'un seul Dieu, etc. Mais il n'y a jamais ce « j'ai senti telle personne vivante » face à moi qui me montre qu'il y a quelque chose après la mort, quoi. C'est beaucoup porté à après. Bah, du coup, je prie, je me comporte bien et après j'irai au paradis. Vous voyez que nous, ça va plus loin que ça. Ça ne s'arrête pas à juste après on ira au paradis. Le paradis commence dès maintenant.
Dieu nous parle à travers les catéchumènes. Vous posez cette question, effectivement, où il y a cette excitation du début. On est catéchumène, on vient d'être baptisé, on rentre dans l'église. Et après ?
Et oui.
Les semaines passent, les mois passent. Est-ce que cette ferveur reste ? C'est la question que vous posez à travers ce livre.
En fait, si vous voulez, je remarquais que, oui, il y avait de plus en plus de catéchumènes, mais que beaucoup ne perduraient pas dans la foi. C'est ce qu'on appelle la difficulté d'intégrer les néophytes, donc les jeunes convertis dans la foi, la difficulté de les intégrer à la paroisse, à la communauté, et de les aider à persévérer. Donc ce livre, c'est un peu une analyse de pourquoi il y a un renouveau du catéchuménat, pourquoi en même temps c'est si difficile de tenir dans la foi et qu'est-ce qu'on peut proposer. Donc dans la première partie, c'est un peu un état des lieux, comprendre le contexte pour saisir la psychologie des catéchumènes. Et la deuxième partie, c'est vraiment des propositions qui me viennent de ma propre expérience et de mes réflexions. Comme après, moi je me suis engagé pendant 6 ans en tant que responsable du catéchuménat de ma paroisse. On a commencé avec 5 catéchumènes, on a fini, là ils sont plus de 100. Vraiment une explosion. J'ai commencé avec 4-5 baptêmes et après, sur ma fin de service, il y avait 20 à 21 baptêmes. Donc vous voyez vraiment, j'ai vu l'évolution. Ouais. Et c'est grâce à tout ce qu'on a mis en place aussi. Voilà. Et du coup, ce livre propose un peu tout ça, montre aussi les obstacles à la conversion et au fait de perdurer dans la foi. Et ce qui est important de retenir, je pense, c'est que c'est une mission qui engage toute l'Église, qui ne peut pas être le ressort de quelques spécialistes et de quelques zélés. Ça ne marchera pas si tous les chrétiens ne s'engagent pas. Si vous voulez, dans les premiers siècles de l'Église, quand il y a eu les conversions un peu de masse au christianisme dans l'Empire romain, le catéchuménat a commencé, ils ont développé des choses pour bien accompagner. Et il y avait, notamment, ils avaient développé quelque chose de très beau, qui était un espèce d'ancien dans la foi, qui accompagnait le catéchumène de son entrée jusqu'à la fin, qui devenait souvent son parrain et sa marraine. Donc c'était un peu celui qui venait l'intégrer dans la communauté. Et ça, c'est une intuition vraiment profonde qu'on a mis en place dans notre paroisse, qui s'appelle des aînés dans la foi ou des témoins de la foi, qui vont venir accompagner. Et donc vraiment, la clé, c'est l'accompagnement. En fait, Dieu nous a voulu en collectif. Il a créé l'Église pour qu'on soit en groupe, pour qu'on soit son corps. Et donc, il faut que tout le monde s'implique. Et donc, tout le monde doit s'impliquer à intégrer les catéchumènes à la communauté. Il ne faut pas juste donner la sacrement avec une vision un peu magique. C'est bon, il a le sacrement, il a des super pouvoirs, tout va bien se passer. Il faut l'aider à déployer la grâce qui est en lui. Et pour ça, il y a besoin des autres. Et c'est le but du livre.
C'est le but du livre qu'on aura, bien sûr, l'occasion de retrouver. On rappelle le titre, Dieu nous parle à travers les catéchumènes. Mmh. C'est un livre qui sortira donc courant 2026.
Voilà, c'est
comment
ça.
On pourra se le procurer?
Bah, du coup, mon éditeur, c'est les éditions du CERF. Et du coup, ce livre sera présent, chez l'éditeur, en librairie, mais aussi sur toutes les plateformes. J'ai pas encore la date exacte, donc ça viendra prochainement. Et vous m'entendrez aussi parce que un autre éditeur va publier d'autres livres. C'est un peu c'est le même sujet mais sous un format différent. Ce sont des petits livres qui sont des lettres adressées directement aux catéchumènes. Donc là, c'est un format plus à la première personne où moi je m'adresse à eux comme un ancien qui vient parler au nouveau et le conseiller, quoi.
Et qui les conseille.
Voilà, aux éditions de l'Emmanuel, ce sera aussi l'année prochaine.
Merci beaucoup, Guillaume-François Salin, d'être passé jusqu'à nos studios. Vous étiez venu déjà nous visiter avec un groupe d'élèves qui était venu donc ici sur Lourdes. Vous êtes là à l'occasion de la fête de l'Assomption, le pèlerinage national. On vous souhaite un bon séjour. Merci. Et puis on aura peut-être l'occasion de se retrouver à travers un autre format, une autre émission sur Radio Présence. Très bon vent à vous et puis bon succès pour votre livre.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Présence à Tarbes et Lourdes 96.
Qu'est-ce qu'elle est belle, cette chanson interprétée par Nino Ferrer. C'est tout simplement le Sud. Très belle matinée avec Présence.
C'est un endroit qui ressemble à la Louisiane, à l'Italie. Il y a du linge étendu sur la terrasse et c'est joli. Le temps dure longtemps et la vie sûrement plus d'un million d'années. Et toujours en été se roule sur la pelouse, y'a plein de chiens, y'a même un chat, une tortue, des poissons rouges, il ne manque rien. On dirait le sud, le temps dure longtemps. La vie sûrement plus d'un million d'années. Et toujours en été. Thank you. bien. On n'aime pas ça, mais on ne sait pas quoi faire. On dit c'est le destin.
Belle chanson qui met à l'honneur notre belle région. À l'instant, c'était Nino Ferrer avec le Sud sur Présence. Il est 12h passées de 26 minutes. On refait un point sur l'actualité avec Carla Ponce de l'école de journalisme de Blagnac. Bonjour Carla.
Bonjour à tous. À Toulouse, la tour Occitanie avance malgré les oppositions. Le promoteur, la compagnie de Phalsbourg, affirme qu'aucun permis modificatif n'est nécessaire. L'enveloppe du gratte-ciel reste identique. Seules les fondations sont adaptées au passage du métro. Les opposants, privés de ce recours juridique, dénoncent toujours un projet contraire aux enjeux environnementaux. Le chantier de la tour est annoncé pour début 2026. Dans le Lot, un premier cas de dengue autochtone a été confirmé à l'Albinque. Il s'agit d'un habitant diagnostiqué le 20 juillet dernier sans voyage à l'étranger. Le virus a donc été transmis localement par le moustique tigre. Des opérations de démoustication et de sensibilisation ont été menées dans la commune. Aucun autre cas n'a été détecté depuis cette alerte. Les autorités estiment que la transmission est désormais maîtrisée. Les travaux du jardin du Tour de Ville débutent aujourd'hui sur le parking des berges du Tarn à Montauban. La première phase concerne la partie du parking avec la suppression d'environ 200 places de stationnement. Le projet vise à végétaliser l'espace, créer des cheminements piétons le long du Tarn, installer des pontons, des gradins, un kiosque ainsi que des équipements sportifs. Le montant des travaux est estimé à 3,9 millions d'euros, mais la durée exacte, elle, n'est pas précisée. Dans le Gers, les abandons d'animaux se multiplient encore cet été. Le refuge de la SPA affiche complet avec même une liste d'attente. Chiens et chats arrivent en nombre, souvent laissés en fourrière ou trouvés errants. Les départs en vacances aggravent la situation chaque année. Plus d'entrées que de sorties, ce qui bloque les adoptions. Aujourd'hui, plus de 180 animaux attendent un foyer dans le Gers. Le 29 août, Castres accueillera la Grande Boucle des Sourires, un défi cycliste de 2000 km. Parti de Cahors, le parcours traversera 27 villes d'Occitanie avant retour le 22 septembre. L'événement marque les 30 ans de l'association Hôpital Sourire. Depuis 1995, elle agit dans les hôpitaux pour améliorer le quotidien des enfants et des personnes fragilisées. Chaque étape permet de sensibiliser le public et de collecter des fonds. Et enfin, Espalion dans l'Aveyron a été mise à l'honneur ce 15 août dernier. La messe de l'Assomption a été retransmise en direct sur la chaîne CNews. Les caméras se sont installées en l'église Saint-Jean-Baptiste pour l'occasion. Les téléspectateurs ont pu découvrir le patrimoine religieux de la commune. Des images ont aussi mis en valeur le paysage verdoyant du territoire. Une belle vitrine pour cette petite ville du nord de l'Aveyron.
Un grand merci à Carla Ponce, journaliste à l'école de journalisme de Blagnac, qu'on retrouvera bien sûr tout au long de cette semaine. Ce qui va suivre est vraiment bouleversant. C'est Mathias Théry qui reçoit dans le magazine Deux Passages à Lourdes Roselyne Hamel, la sœur du père Jacques Hamel, assassiné en 2016 à Saint-Étienne-du-Rouvray, et Nassira Kermiche, la mère de l'un de ses meurtriers. Ils se livrent toutes les deux à un dialogue bouleversant, c'est le sujet de Passage à Lourdes qui vous est proposé par Mathias Théry.
Présence de Passage à Lourdes, proposé par Mathias Théry.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous recevons des sœurs de douleur. Bonjour, mesdames.
Bonjour.
Bonjour à vous, Roselyne Hamel. Bienvenue dans cette émission de Passage à Lourdes. Et bonjour à vous, Nassira Kermiche.
Bonjour.
Bienvenue également.
Merci.
Nous recevons également Samuel Liévin. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes celui qui a prêté sa plume et permis sans doute aussi d'une certaine façon cette rencontre. puisque c'est l'objet d'un livre qui s'appelle « Sœur de douleur », qui est un récit. Et à la base de ce récit, un drame, une impasse, une impossibilité de se pardonner, de se rencontrer, puisque le 26 juillet 2016, en l'église Saint-Étienne de Rouvray, le père Jacques Hamel, votre frère, est assassiné, et assassiné par arme blanche par deux jeunes djihadistes. Il se trouve que un de ces jeunes est votre fils. Vous rassemblez, vous voir aujourd'hui dans un même studio, toutes les deux, comme des sœurs de douleur, c'est donner à comprendre qu'un chemin a été fait, long, douloureux, compliqué. Et c'est presque improbable, non, Madame Hamel, que de se dire, mais comment est-ce possible que la maman du bourreau de votre frère soit à vos côtés aujourd'hui? C'est un chemin incroyable, non?
C'est évident que ça ne s'est pas fait très rapidement, ce chemin. Il a été long, de plusieurs semaines, de plusieurs mois. Et toujours dans une telle douleur qu'il était difficile, à mon âge, 76 ans à l'époque, de rester debout. Il aurait été facile qu'à 76 ans, je me laisse périr, envisager de souffrir cette douleur de l'horreur jusqu'à trop de nombreuses années. Je n'ai pas succombé à cette tentation parce que mes enfants ont été sur place lors du drame et ont souffert la même et souffrent encore la même douleur que moi. Donc je me suis mis à réfléchir pendant des semaines à quel serait quel chemin prendre pour avoir un chemin qui ait du sens. Notre foi étant, ma foi étant blackboulée, je me suis posé des questions pendant des semaines, m'habituant à parler toute seule à moi-même, me poser des questions auxquelles j'avais pas de réponse. Elles étaient plus ou moins incongrues. Et un jour, je me suis posé une question tellement j'étais lasse d'essayer de vivre cette douleur du mieux que je pouvais. Qui peut souffrir plus que moi? Et je pensais que c'était une question encore qui n'avait pas de sens. Quoique quelques jours plus tard, il m'est venu l'idée de me mettre à la place de cette maman que je ne connaissais pas. Et m'imaginant que ce qui aurait pu arriver si un de mes fils avait pris ce chemin hors, qui n'avait pas le même sens que l'éducation que je lui ai donnée, quelle serait ma douleur? Et à la suite de cela, journellement, je me mettais à la place de cette maman et je crois que je sentais ce manteau de douleur, de culpabilité de cette maman. Je me disais, c'est pas possible, ça doit être infernal pour cette mère. Et quoi qu'il y en a bien d'autres que j'ai connus dans mon témoignage qui m'ont témoigné de la même difficulté, je me suis mise en tête de pouvoir communiquer avec cette maman. Et c'est comme ça qu'a commencé notre rencontre par le téléphone, pour commencer.
Alors, Roselyne Hamel, au-delà de la rencontre, il y a de la connivence dorénavant, on va le voir, on va se rendre compte de cette connivence entre vous. Nassera Kermiche, votre fils Adèle, comme elle irréparable, évidemment, comme le disait à l'instant Roselyne Hamel, c'est la maman qui est frappée au cœur.
Exactement.
Pour vous, cette rencontre, pour que finalement Roselyne devienne votre sœur de douleur, c'est très vite survenu comme une évidence, ou bien pour vous aussi, il a fallu faire un long chemin de doute, de pleurs, de souffrance?
Alors moi, ça a été une évidence dès le début. J'ai d'ailleurs essayé de contacter les sœurs qui étaient dans l'église en premier lieu.
Tout de suite, vous vous êtes dit,
tout de suite,
il me faut aller à la rencontre,
oui,
de ceux qui souffrent
oui.
de ce qu'a commis Adèle.
Voilà, exactement.
Je mais précise je ne connaissais que pas. Vous avez une casquette et des oui. lunettes parce qu'on veut préserver
mon anonymat.
Votre voilà, anonymat.
Voilà, c'est ça. Et mais voilà. Je ne connaissais pas encore Roselyne Hamel, mais je savais qu'il y avait les sœurs qui étaient dans l'église, les paroissiens aussi, le monsieur Coponnet avec sa femme. Et je voulais les rencontrer, donc j'ai essayé de les contacter par le biais d'une amie qui habite près de l'église. Et je lui ai demandé, est-ce que tu connais les sœurs qui étaient dans l'église ? Elle me dit, bah, je peux essayer de chercher pour trouver leur adresse et leur écrire un petit mail. Donc c'est ce qu'elle a fait, mais je pense que je me suis prise un petit peu trop tôt. C'était à peine 2 mois après le drame. Et elles ont répondu qu'elles n'étaient pas prêtes, qu'il fallait un peu plus de temps. Donc pour moi, bah, c'était compliqué cette réponse parce que dans mon esprit, je me suis dit il faut absolument que je les rencontre, que je leur demande pardon pour mon fils, que je puisse les entendre parce qu'elles ont dû être traumatisées, elles ont souffert dans cette église et je voulais absolument les rencontrer. Et quand Roselyne m'a contactée, c'était vraiment un soulagement pour moi parce que je me suis dit, ben voilà, je vais pouvoir parler déjà avec la sœur du père Hamel. Et quand elle m'a proposé de me rencontrer, je lui ai dit, mais oui, mais ça fait longtemps que je vous attends. Ça fait tellement longtemps que j'attendais cette proposition que ben, j'ai tout de suite dit oui.
Cette première rencontre, on est un peu, quand même, pas froid, mais on est sur une posture de protection, Roselyne Hamel, non ? On se dit quoi ? Non ? Tout de suite, vous vous dites, ça me libère.
C'était tellement un besoin humain fondamental que je ressentais que... Non, pas vraiment d'appréhension. Un petit doute auquel peut-être cet entretien, je serais un peu déçue. Et l'archevêque de Rouen, avec lequel qui m'a accompagnée, je lui posais la question, tout va bien se passer. Père Dominique, il m'a dit, il n'y a aucune raison que ça se passe mal. Dieu nous accompagne. C'est ça, c'est votre volonté. Si c'est votre volonté, c'est celle de Dieu. Donc, allez, on va rentrer. Et on a frappé à sa porte, tous les deux. Et Nasser a ouvert grand sa porte et ses bras. Et il m'a dit, pardon, madame, pardon. Et je tout de suite, j'ai avancé le pas, j'ai pris dans mes bras. J'ai dit, non, je suis pas venue demander un pardon. Je suis venue vous demander s'il était possible de gérer notre douleur ensemble.
On vous sent plus qu'ému, encore aux larmes, de revivre ça.
Oui. C'est un moment tellement plein d'émotions et de satisfaction d'avoir eu cette ambition de faire ce chemin que c'était vraiment une émotion hors norme. Et à chaque fois que je renouvelle ce souvenir, c'est comme si que c'était ce jour présent que je revivais.
Vous avez conscience l'une et l'autre que le chemin que vous proposez, il est à vue humaine, il est impossible. Pardonner face à ce qui est irréparable, à vue humaine,
oui.
C'est très compliqué, même dans notre monde. Vous en avez conscience, Nasera,
Moi, j'ai conscience de ce que Roselyne a fait.
Mais ce que vous faites, vous aussi, en ouvrant grand vos bras.
Je sais, mais ce que Roselyne a fait, c'est vraiment énorme. C'est courageux, c'est énorme, c'est impensable. Beaucoup de personnes n'auraient pas fait cette démarche. La personne qui a été victime, la plupart du temps, reste à marmonner dans son coin... a de la rancœur, a de la haine, de la colère. Mais Roselyne, pas du tout, au contraire. Elle s'est complètement débarrassée de toutes ces émotions négatives. et elle est venue vers moi.
Et vous, comme ça, maman, ça vous a apaisé, ça vous a soulagé?
C'est vrai que ça m'a beaucoup apaisé, beaucoup soulagé que Roselyne vienne vers moi. Et je pensais pas que ça arriverait, vraiment. Même quand on a commencé à parler ensemble, je m'imaginais pas qu'un jour elle me dirait « je vais venir chez vous ». Et quand elle est venue, ça m'a tellement fait de bien. Je portais un très lourd fardeau sur mes épaules parce que mon fils avait commis l'irréparable. Et je me sentais responsable de ce qu'il avait commis. Et elle m'a aidée à porter ce fardeau et à me sentir, je ne vais pas dire, moins responsable, malgré la culpabilité que je ressens toujours, mais ça m'a beaucoup aidée, beaucoup.
Donc, Roselyne, votre intuition de maman, qui peut souffrir plus que moi? La maman qui elle-même est en proie à cette culpabilité, c'était la bonne intuition de maman qui vous a permis de franchir ce pas.
Voilà, oui. En même temps, je dois être honnête, j'ai découvert que j'avais eu la grâce de ne pas ressentir ce sentiment de haine le jour du drame. Et c'est Monseigneur l'archevêque de Rouen, Dominique Lebrun, qui, quand il est venu préparer les obsèques, a dit « Avant de commencer, il faut que je vous pose la question. » Donc nous étions tous en famille, et mes enfants, quelques-uns de mes petits-enfants adultes, et ma sœur, et on attendait cette question, et il nous dit « Est-ce que vous avez la haine ?» Et curieusement, personne ne répondait. Et un grand silence s'installait, et dans ma tête, je me disais, mais est-ce qu'on n'a pas ressenti, moi personnellement, c'est vrai que je n'avais pas ressenti cette haine, mais est-ce que nous, communément, on n'avait pas ressenti cette haine, et, ou est-ce qu'on n'ose pas le dire? Et de ce silence, j'ai ça aussi, je n'oublierai jamais, de ce silence, ma plus jeune fille, Jessica, d'une voix un peu enfantine, s'élève et dit « Mais enfin, mon père, la douleur est tellement énorme, il n'y a pas de place pour la haine. » Et je dois avouer que, voilà, j'ai découvert que on n'avait pas ressenti ce sentiment de haine qui aurait été humain, en fait. Et donc, peut-être que c'est cette grâce que j'ai eue qui m'a conduit à penser, à réfléchir et à ressentir ce qu'une maman pouvait ressentir comme la douleur de Nacera.
Le livre s'intitule « Sœur de douleur » paru chez XO. Donc il est signé Roselyne Hamel, Nacera Kermiche et Samuel Liévin. Je vous propose de marquer une pause dans cette émission. Nous continuons ce dialogue avec vous et justement nous verrons comment Samuel Liévin, qui est directeur de la rédaction du Pèlerin, journaliste, a pu se mettre au service de cette rencontre dont nous disions qu'elle était au départ improbable, eu égard à l'événement fondateur et très très douloureux le 26 juillet 2016, cet assassinat du père Jacques Hamel dans l'église de Saint-Étienne de Rouvray. A tout de suite.
Présence de passage à Lourdes. Proposé par Mathias Terrier.
Merci beaucoup, mesdames, d'avoir accepté de témoigner. Vous l'avez fait par écrit à travers ce récit, Sœur de douleur, récit qui est à la base impossible, puisqu'il s'agit de raconter la rencontre à partir d'un événement de l'assassinat du père Jacques Hamel entre vous, madame, qui êtes la sœur du père Jacques Hamel, Roselyne Hamel, et vous, Nacera Kermiche, qui êtes la maman d'Adèle, un des deux djihadistes qui, avec une arme blanche, perpétue cet assassinat. Et donc vous, Samuel Liévin, vous êtes le directeur de la rédaction du Pèlerin, journaliste, on a l'impression que vous n'avez presque pas votre place, en fait, dans cette rencontre. Je me permets de vous le dire avec beaucoup de simplicité. On se dit, mais comment trouver sa place dans une rencontre qui est celle de deux mamans, dans la douleur, sœur de douleur, un pardon en chemin, puis un pardon grandissant, et puis qui rayonne d'une certaine façon à travers le témoignage aujourd'hui. Vous, quel rôle vous pouvez jouer? Quel rôle vous avez joué?
En fait, ça a commencé très simplement en 2018, un an et demi donc après l'assassinat du père Hamel. On se rencontre, Roselyne et moi, autour de la remise du premier prix Jacques Hamel. C'est-à-dire que très vite, la Fédération des médias catholiques se dit un événement pareil, l'onde de choc sur la société fait qu'il faut pouvoir transformer cet événement en une occasion aussi de récompenser un travail journalistique qui ouvre les portes, qui ouvre les horizons. Et donc, il se trouve que j'ai été, l'indigne premier récipiendaire de ce prix que Roselyne m'a remis. Et comme Roselyne, en plus, vient d'Armentières, sa ville d'adoption, qui est la ville où j'ai grandi, très vite, le courant a passé. Il a passé quasiment immédiatement. Le premier soir, on était bras dessous devant la grotte. Et puis Roselyne était bien mal en point à l'époque physiquement, c'était encore très récent, c'était à la veille d'une opération au poumon, et donc on a fait connaissance et depuis on s'est plus quitté, à la fois pour des raisons professionnelles où plusieurs fois on s'est retrouvé ici à Lourdes dans le cadre de ces rencontres et du prix Jacques Hamel, et puis aussi à titre personnel, et au fur et à mesure Roselyne m'a parlé de sa rencontre, de ses rencontres avec Nasser, mais c'était pas encore l'objet de les rendre publics. Et puis les années passant, un jour elle me dit, écoute, Nasera insiste, elle est elle-même convaincue maintenant de la nécessité de témoigner à son tour. Et c'est comme ça que quelque part, non pas le duo n'est pas devenu un trio, c'est pas possible, c'est pas moi qui ai traversé ces événements, évidemment ce sont elles, mais ça a quand même facilité les choses, c'est-à-dire que j'avais déjà connu dans un premier temps la posture difficile de recevoir un prix Jacques Hamel. Qui est-on ? Qui suis-je en tant que simple journaliste pour recevoir un prix pareil ? Et du coup, quelque part, ça s'inscrivait dans cette suite. Et c'est comme ça que, avec la simplicité en plus de Roselyne et de Nasera, j'ai pu trouver ma place en tant qu'écoutant. Et puis ensuite, faire cette... raconter cette histoire en confiance, en se disant puisqu'on est en confiance, le courant circule, allons-y, et puis c'est comme ça que ça s'est fait,
Et vous, mesdames, vous lui avez laissé la place qu'il convenait pour vous accompagner dans ce récit. Là aussi, quand on fait un récit où on porte chacun sa vie intérieure aussi, de la façon dont on a vécu l'événement, il faut converger à un moment. Comment vous avez fait ce travail ? Comment vous avez pu faire ce travail du livre qu'on voit aujourd'hui, qu'on a entre les mains ? Vous avez beaucoup parlé.
Oui, déjà, les années ont passé et à chaque fois qu'on se rencontrait, on a remarqué que toutes les deux, on avait beaucoup de choses à échanger, beaucoup parler, beaucoup échanger. Et on prenait plaisir de plus en plus à rencontrer, à s'échanger le modèle de notre vie, le modèle d'éduquer nos enfants, notre chemin qu'on a parcouru avec nos propres épreuves auparavant. C'est devenu au fur et à mesure...
Une amitié ?
Une amitié et on a découvert tant de choses l'une sur l'autre, sur nos différents chemins de vie, avec des ressemblances étranges aussi. Et que un jour, une de ses filles, nous entendant parler, elle nous dit, dites donc, vous êtes vraiment des bavardes, à vous deux, vous pourriez écrire un livre.
Ça a cheminé. L'idée a germé.
Voilà. Et d'autant plus que on sentait, en parcourant quelques réseaux sociaux, qu'il y avait eu vraiment une incompréhension de notre rencontre. Et elle était tellement fructueuse de paix et pour nous déjà. Retrouver notre paix intérieure et quelque part quand nous étions ensemble, je pense que c'est le seul moment où nous retrouvions un peu de joie de vivre et que cette incompréhension qui régnait, dont nous faisaient part les réseaux sociaux, nous a incité à raconter notre parcours, le pourquoi, le comment, afin de briser ce mur d'incompréhension qui persistait au bout de 7 ans.
On sent de l'amitié entre vous aujourd'hui.
Oui, c'est...
J'ai parlé de connivence, on vous sent...
Oui, tout à fait, oui.
Proche.
C'est petit à petit...
Roselyne, tout à l'heure, a réajusté votre casquette. voilà, ça va jusque-là, dans ces petits gestes
d'amitié. Ça va très loin,
d'amitié.
Parce qu'on s'est découvert plein de points communs, et quelquefois, on en rigole... On arrive à avoir des fous rires toutes les deux,
qu'on n'arrive plus en famille à avoir ce fou rire. Même des fois, on se dit il faudrait peut-être qu'on arrête parce que les gens vont nous prendre pour des folles.
Oui.
Mais c'est tellement bon parce que oui, quand on est en famille, on peut pas dire qu'on fait semblant, mais on n'arrive plus à avoir la joie qu'on avait avant. Et on a l'impression d'être là, mais pas de participer. C'est pas... Et là, on a découvert que quand on est ensemble, une fois qu'on est un peu débloqué des interviews et qu'on a un peu de liberté, on a de la joie, on a des fous rires toutes les deux et on se demande d'où ça vient.
Vous avez sans doute conscience que votre témoignage vous dépasse, surtout dans ce monde où on cherche à cliver, à radicaliser, à opposer, polariser. Enfin, il y a plein de mots aujourd'hui qui disent combien les gens cherchent plutôt la voie de la séparation, de l'éloignement.
Mais justement,
vous envoyez un autre témoignage.
Oui. On veut justement faire passer ce message. De dire, il faut aller vers l'autre, il faut chercher à comprendre l'autre, à découvrir l'autre. Et il y a comme ça qu'on pourra continuer à vivre sur cette terre, parce que les clivages, les séparations, ça fait que des guerres, en fait, que des conflits, alors que si on arrive à se tenir main dans la main et se comprendre les uns les autres, on arrivera à avancer en paix.
Mais vous, Nassera, vous partez de l'étape d'une maman blessée qui a le sentiment d'avoir manqué quelque chose à l'éducation de son fils, qui se sent coupable. Et aujourd'hui, vous dites, je revis.
Oui.
Il y a quelque chose d'apaisé en moi, même si la douleur reste là, évidemment.
La douleur est toujours là. Elle se montre de temps en temps, quand on n'est pas bien, quand on est un petit peu... On a une baisse de régime, Mais c'est vrai que, grâce à cette rencontre, on arrive à surmonter beaucoup de choses. Beaucoup de choses. C'est vrai.
Samuel, ça n'est pas simple de se mettre au service de cette rencontre. Vous nous l'avez dit, les choses se sont faites au plan très humain au départ. Vous avez, vous, aujourd'hui, comme journaliste, conscience que le témoignage qui est porté là, quelque part, il va au-delà même du témoignage de Roselyne et de Nasser.
Oui, justement, c'est un livre qui fait du bien. C'est ce que j'entends beaucoup. C'est ce que je lis sur aujourd'hui les comptes rendus de lecture ou parfois les messages que je reçois à titre personnel. C'est-à-dire que, effectivement, comme on est dans un moment de la société où on le voit bien, même sur le plan politique, les discours sont beaucoup plus extrêmes, on monte beaucoup plus vite aux extrêmes. On est un peu dans une ère on cède facilement à mettre les gens dans les cases. Et donc, on considère que le courant ne peut pas passer entre tel point de vue et tel point de vue. Et là, on part d'une situation apparemment condamnée. Et on voit que, en réalité, la rencontre débloque tout. Et c'est vrai que ça met finalement tout le monde sur la même longueur d'onde. C'est-à-dire, nous, en tant que journalistes, si on fait ce métier, c'est quand même parce qu'on croit que de permettre aux différents points de vue de s'exprimer, aux différentes expériences de se raconter, ça ouvre des horizons. Et là, on voit que même dans les situations apparemment les plus condamnées, c'est le cas. C'est un livre qui opère par sa capacité à dire la rencontre, même dans les situations les plus désespérées, est toujours possible. Oui. C'est l'histoire en fait de deux femmes qui n'auraient jamais dû se rencontrer, avec deux vies finalement parallèles qui se ressemblent, mais qui, jusqu'à cet attentat, un matin de semaine du 26 juillet 2016, dans une petite église de la banlieue rouennaise, n'auraient jamais dû se rencontrer. Et en réalité, on voit que de votre rencontre, c'est l'horizon de plein de gens qui ne vivent pas forcément des situations aussi exceptionnelles qui s'illuminent. En tout cas, c'est ce que moi j'entends comme retour. Voilà.
Ma dernière question concerne Lourdes. Vous êtes de passage à Lourdes. Je crois, Nassera Kermiche, que vous êtes déjà venue à Lourdes.
Oui, c'est mon troisième passage à Lourdes. En fait, la première fois que je suis venue, c'était en 2008. On était de passage. Voilà.
En famille ?
En famille. Et on s'est dit, on va s'arrêter, on va visiter, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis, on est resté 2 jours sur Lourdes. Et on a continué notre chemin pour nos vacances. On partait en vacances.
Ce lieu vous parle ?
Ce lieu me parle parce que ça me reprovoque des souvenirs où j'étais avec mes enfants, avec Adèle, qui était avec nous. Et voilà, c'est des souvenirs, c'est des bons souvenirs qui me reviennent. Et voilà, donc pour moi, c'est un lieu de souvenirs. Voilà.
Vous, Roselyne Hamel, où est-ce que vous... Lourdes est un lieu de foi. Où en êtes-vous avec cette question de la foi?
Je dois avouer que, évidemment, ma foi a été bien perturbée. Évidemment, mon frère Jacques était un religieux. Le fait qu'il a perdu la vie sur les marches de l'autel où il a finissait de célébrer la passion du Christ, c'était... ça m'avait anéanti et oui, ma foi était tellement perturbée que j'ai cru qu'elle était définitivement anéantie. Et c'est pour ça que je dis, le jour où j'ai pris la décision de rencontrer cette maman, c'est pas ma foi qui m'a dirigée. C'est vraiment un sentiment profondément humain, parce que je me suis mis à sa place, et à force de me mettre à sa place, j'ai sans la rencontrer, déjà, je partageais son manteau de douleur. Et je souffrais avec elle sans la connaître. Donc, ma foi n'y est pour rien. Mais je veux dire quand même que quoi que je dis, ma foi n'y est pour rien. Quand je viens à Lourdes, je me remémore ces moments où j'allais à l'église près de chez moi, où il y a une superbe Pietà. Et je priais devant cette Pietà en demandant à la Vierge Marie qu'elle me donne la force de marcher sur les pas de mon frère comme elle a marché sur les pas de son fils après son martyre et afin que je trouve un sens à ma vie. Donc quelque part, ma foi, elle était quand même toujours vivante, en sommeil, et le fait de me retrouver à Lourdes chaque fois que je suis appelée à témoigner, et je pense à ce moment où je priais au pied de cette Pietà retrouver un sens, un chemin qui ait un sens à ma vie, c'est-à-dire marcher sur les pas de mon frère.
Merci beaucoup pour cette rencontre. Sœur de douleur, paru chez Ixo, signé Roselyne Hamel, Nassera Kermiche et Samuel Liévin. Merci beaucoup pour ce récit, pour le courage de ce récit. Et on vous souhaite un bon séjour à Lourdes, évidemment.
Merci.
Bon pèlerinage. Au revoir.
Au revoir.
Présence de passage à Lourdes, proposé par Mathias Terrier. L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur internet radioprésence.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter.
présence dans le Lauragais, 97.9.
Radio Vatican,
le journal.
Le journal.
Le président ukrainien et les principaux leaders européens attendus à la Maison-Blanche ce lundi, ils y seront reçus par